Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, émission Cinérama, première émission de l'année 2016. Et pour ne pas faire comme tout le monde, dans cette émission, nous parlerons des films qui ont marqué 2015. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Donc ce sera l'occasion de retrouver chacun nos top 3, les 3 meilleurs films de 2015. Et on a de la chance parce que ce ne sont pas les mêmes. Et puis ça vous donnera l'occasion, vous, auditeurs, de jouer une sorte de blind test parce que je me suis amusé à mélanger 3 films qui compose une seule bande-annonce. Voilà. Sinon, on s'est mis aussi d'accord sur Tarantino. On a tous les trois vu
exact.
Le film de Tarantino.
Donc, je vous en parlerai un petit peu quand même. Et puis après, on en dissertera tous les trois. Et je vous parlerai également de Joy, le nouveau film de David O. Russell, un autre film donc très attendu.
Mais que tu n'as pas vraiment
apprécié. Et que je n'ai pas non plus aimé.
Et toi, Manu, c'est pareil. Hein. Tu vas commencer par nous parler d'un film que tu n'as pas forcément apprécié.
Non, de Mistress America, de Noël Baumbach. Et puis, je parlerai un petit peu de The Beast. En fait, un film belge pas formidable non plus.
Et paraît-il sur le modèle de Seven, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Voilà, c'est pas très exaltant, effectivement. Sauf que nous aurons aussi une interview. C'est celle de la réalisatrice Ouni Lecomte pour son film « Je vous souhaite d'être follement aimé ». C'est un film qui sort ce 6 janvier. Et puis, c'est un deuxième long métrage et c'est plutôt un drame. Mais on aura l'occasion quand même de jouer avec le top 3, c'est Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
On commence donc avec Joy. Véritable ode au libéralisme américain, Joy décrit le parcours atypique et foudroyant d'une jeune mère de famille middle class qui, à force de persévérance, deviendra millionnaire. Une success story donc doublée d'un feel-good movie et dans le rôle-titre, Jennifer Lawrence qui incarne une perdante magnifique bien décidée à vivre le rêve américain. Véritable bricoleuse de génie quand elle était enfant, Joy a dû en effet entrer dans le moule de la parfaite femme au foyer et renoncer à ses rêves pour supporter, au propre comme au figuré, sa famille nombreuse et instable. Jusqu'au jour où lui vient l'idée d'un ballet révolutionnaire qu'elle va fabriquer elle-même et tenter de vendre par tous les moyens, découvrant ainsi le monde impitoyable du business.
Vous m'avez dit que David Selznick, qui était fils d'immigrés, avait épousé Jennifer Jones, une américaine moyenne d'Oklahoma. Parce qu'en Amérique, toutes les races et toutes les classes peuvent se mélanger et profiter de toutes les opportunités qui se présentent. Et que ça, c'est ce que vous ressentez lorsque vous entrez chez les gens avec le téléachat.
David O. Russell reprend ici le trio de comédiens qui lui a valu ses précédents succès. Après le très surestimé Happiness Therapy qui avait donné à Jennifer Lawrence un Oscar pour son rôle de nymphomane dépressive, après l'insupportable, enfin c'est ce que je pense, American Bluff, voici qu'il reprend la même formule, sous la coupe toujours de ses producteurs, les frères Weinstein, qui n'ont certainement pas envie de changer une équipe qui gagne. Mais trop confiant envers ses comédiens, Russell en oublie de leur écrire des personnages suffisamment complexes. Voilà pourquoi on peine à s'y attacher et pourquoi également on s'ennuie très vite devant cette histoire de ménagère devenue star du téléachat. David O. Russell essaye toujours de nous faire croire qu'il est un cinéaste indépendant, mais sa mise en scène faussement virevoltante ne fait plus illusion. Autant que ses traits d'humour qui tombent inévitablement à plat. Heureusement, Jennifer Lawrence, au summum de son art, parvient encore à surprendre, dirigée par son réalisateur désormais fétiche, au contraire de De Niro qui n'en finit plus de nous ressortir son infatigable personnage de beau-père aigri.
Écoute, je sais pas où je vais t'installer. Papa, n'entre pas, c'est maman qui est là.
Tu peux le reprendre, Terry. J'en veux plus, moi.
Pourquoi c'était mieux de vivre avec Sharon, Rudy ?
Papa, ne réponds pas.
On a été au Metropolitan Museum à New York.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce musée ?
Qu'est-ce qui m'a plu ? Je vais te dire ce qui m'a plu. J'ai aimé les statues romaines antiques, j'ai aimé les armures médiévales, j'ai aimé les orfèvreries.
Les musées sont pleins de poussière, de saleté et de mort.
J'ai commandé l'espresso, des bons panini.
T'as mangé des panini dans un cercueil, Rudy. Un cercueil poussiéreux et ennuyeux.
Pourquoi tu me demandes alors ? Quoi ? T'es dingue, ma parole. J'ai l'impression de parler avec une folle dans un asile de fous.
Qu'est-ce qui était si chouette ?
Capitaine Jack, tu m'appelles comme ça ?
Oui, Capitaine Jack, l'imbécile.
Ouais, et toi, tu sais ce que t'es ? T'es comme une fuite de gaz. On sent rien, on voit rien, mais t'es en train de nous tuer tous sans faire de bruit.
Tu vas me dire ce que t'as fait d'autre avec Charles.
Ouais, la créature du lagon noir.
Voilà, c'est comme ça pendant 2h30. Voilà, les seconds rôles sont cantonnés au stade de faire valoir un peu grotesque autour de la comédienne principale qui, elle, heureusement, est parfaite. Et puis surtout, particularité incontournable du film qui a vraiment fini par me gêner, le film véhicule des valeurs capitalistes outrancières quand même assez dérangeantes en répétant pendant 2h30 qu'il faut abattre ses concurrents, qu'il n'y a pas d'amis dans le business, ni même de famille, et que tous les moyens sont bons pour réussir. Enfin voilà, en tout cas, moi je pense qu'au bout de 3 films, j'en suis sûre, j'aime vraiment pas David O. Russell. Ça c'est sûr maintenant, donc je n'irai plus voir ces films parce que je n'aime vraiment pas et ce film est évitable. Voilà. Il n'est pas foncièrement mauvais, mais il est quand même largement évitable.
Voilà, il était question de Joy qui a déjà sorti en 2015. Film de 2015. Et maintenant, nous allons passer à un film de 2016, c'est Mistress America.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, étudiante en première année dans une université de New York, Tracy vit une existence bien morne. Elle ne fait ni les rencontres excitantes auxquelles elle espérait, ni ne mène la vie urbaine trépidante à laquelle elle aspirait. Alors, jusqu'au jour où elle rencontre sa future demi-sœur Brooke, où les parents de chacune vont se marier mutuellement, enfin prochainement. Alors, une New-Yorkaise pure et dure habitant à Times Square. Séduite par le caractère foutraque et enjoué de Brooke, Tracy découvre enfin le Manhattan dont elle rêvait. Mais évidemment, comme on n'est pas dans une rom-com ni dans un soap opéra, les désillusions ne sont jamais très loin. Alors comme dans toute production indé pour Bobo en mal du Woody Allen annuel. Alors Noam Baumbach n'a jamais fait mieux à mon avis que son premier film, le magnifique Les Bergman se séparent, portrait sensible, drôle et juste d'une famille en pleine crise existentielle. Le scénariste attitré de Wes Anderson poursuit depuis une carrière intéressante, mais déçoit de plus en plus, faute de se renouveler vraiment. Mistress America se situe dans la droite lignée de ses précédents films et les mêmes problématiques reviennent de manière, on va dire, quasi obsessionnelle. Baumbach ne cesse d'évoquer, à travers ses portraits de losers, les thèmes de l'échec et de la jeunesse perdue. Alors Frances A était même assez réussie, car sur ce plan, puisque tout ce qu'entreprenait le personnage incarné par sa muse et scénariste du cinéaste, Greta Gerwig, était inachevé. Alors cet inachèvement se transcrivait vraiment à l'écran par une mise en scène malicieuse et frustrante aussi, parce qu'elle ne terminait aucune scène. Alors pourquoi j'évoque ce point qui est important à mes yeux? Parce qu'il y avait une vraie forme dans Frances A, absente de Mistress America. Si on retrouve les qualités d'écriture des auteurs et une direction d'acteur formidable, jusque dans les moindres rôles, la mise en scène, en revanche, se plie au diktat des sitcoms télévisuels ou des comédies très lisses des productions à pâteau. Alors cet appauvrissement visuel sonne comme une démission que l'on retrouve tout au long du film dans la composition des plans très normatifs, une lumière sans relief et surtout la pauvreté des décors. Alors Baumbach, qui avait su filmer New York dans Frances A avec une candeur touchante, rappelant le Woody Allen de Manhattan, n'inscrit pas son film dans un environnement topographique précis. On a beau nous répéter que l'action se situe à New York, on s'en moque royalement, le film pourrait se passer à peu près n'importe où. Alors en fait, ce qui est le plus pertinent, c'est certainement, comme c'est pas un manchot ce cinéaste, il dresse un portrait, on va dire, plutôt juste de l'étudiante Tracy, qui se projette en miroir dans l'existence de Brooke. Tout cela est plutôt pas mal. Alors notamment le fait que pour représenter une étudiante, alors ça c'est un peu le problème du film, pour représenter une étudiante introvertie, vaguement intello, elle porte des pulls marrons qui sont tout dégueulasses et elle tire la gueule tout le long du film.
Elle n'a pas des lunettes ?
Elle n'a pas les lunettes, elle a évité les lunettes, mais elle a les cheveux qui ont l'air un peu sales et puis qui tombent un peu sur les yeux. Enfin bon, ça c'est quand même un problème un peu cliché quoi. Alors Brooke est néanmoins le personnage aussi le plus proche de Baumbach, celui qui court constamment après ses 20 ans, qui sous ses dehors plein d'énergie est au bord de la rupture, de l'explosion, à l'instar de l'écrivain qu'incarnait Ben Stiller dans Greenberg, foudroyé d'un coup par une passivité existentielle. Alors bon, pour conclure, Mistress America, c'est un film parfois attachant par intermittence, mais qui tourne en rond, ressassant les mêmes questions sans apporter de réponse. Le plus gênant réside dans la position confortable dans laquelle le réalisateur semble s'être installé avec une complaisance de plus en plus marquante. Alors le réalisateur là, est déjà un vieux routier et c'est un peu triste. Et son nouveau film rejoint cette insupportable race de production faussement indépendante dans laquelle on peut y trouver, entre autres, moi je pense à des films comme Juno ou Little Miss Sunshine. Des films, le cinéma indépendant tel que moi je ne l'aime vraiment, vraiment, vraiment pas.
Eh bien merci Manu, une année qui commence bien hein. Voilà, c'était Mistress America et là eh bien, on va passer d'une comédie à un drame qui sort aussi ce 6 janvier. Je vous souhaite d'être follement aimé, film de Winnie Lecomte.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Dans une vie toute neuve, son premier long métrage, Juni le conte suivait l'adoption d'une petite coréenne, et il se trouve qu'elle est aussi d'origine coréenne, donc c'était un peu son histoire qu'elle racontait. Et dans Je vous souhaite d'être follement aimé, qu'elle emprunte à un texte poème de Breton, eh bien c'est à une autre perception de l'adoption à laquelle elle nous convie. Elisa est née sous X, elle n'a jamais connu sa mère, elle décide un jour de s'installer à Dunkerque avec son fils, là où elle a été abandonnée à la naissance 30 ans plus tôt. Mais rien n'est si simple puisque sa mère s'obstine à ne pas vouloir rencontrer sa fille, elle oppose un déni. La réalisatrice, plutôt que de suivre une fille qui va de porte en porte pour connaître l'identité de sa mère, tente une autre voie. Et si ces deux femmes se rencontraient par hasard, comment serait leur rapport? C'est le fiston d'Elisa, scolarisé, qui va faire le lien, car on l'apprendra très vite, et bien il côtoie sans le savoir sa grand-mère qui était de maternelle donc dans son école. Alors dès lors, même si le scénario va placer les deux femmes en confrontation, rien ne va être simple. Après s'être rencontrés, le duo Anne-Benoît, la mère, et Céline Salette, la fille, va devoir se reconnaître. La fonction d'Elisa, ostéopathe, veut que les deux femmes se touchent. Alors effectivement, il y a de l'indicible de la sensation dans cette rencontre. C'est là un des aspects de Je vous souhaite d'être follement aimé, ne pas tout réserver au discours, mais utiliser des moyens du cinéma pour comprendre ce qui unit et désunit ces deux corps, ces deux êtres, dont l'un a donné la vie à l'autre. On écoute Ouni Lecomte, la réalisatrice, nous en parler.
On a retrouvé une femme, mais on ne peut pas lever le secret. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Exactement. Elle nie être votre mère. Qu'on s'est trompé de personne, qu'elle n'a jamais eu d'enfant.
La quête d'Elisa, ce n'est pas faire les recherches comme ça, une enquête qui mènerait à l'identité de sa mère. Enfin, cette idée-là nous paraissait d'abord déjà faite, enfin voilà, dans notre film. Ce qui nous intéressait, c'était que les deux femmes soient en présence comme ça l'une de l'autre, qu'elles ne sachent pas qui elles sont l'une pour l'autre, et que tout, finalement, le chemin, que la quête et les trajectoires de chacune, finalement, soient plutôt de l'ordre de la reconnaissance, de la question de la reconnaissance. Est-ce que, voilà, à quel moment, quelle mémoire va surgir à partir de cette rencontre du hasard, quoi, hein, mais pas tellement... Pas tant du hasard, hein, parce que quand même dans le fil de l'histoire, Elisa est entraînée dans cette recherche parce qu'il y a un déni, hein, il faut pas oublier. Il y a beaucoup de choses dans cette idée, c'est-à-dire que ça nous est venu, l'idée nous est venue aussi parce que dans les recherches, dans les lectures que j'ai pu avoir, eh bien, on grandit avec une image quand même fantasmée des parents biologiques, surtout pour les abandonnés. C'est cette image mentale de la mère ou du père, mais là en l'occurrence de la mère, qui est là assez obsédante. Et l'idée qu'on puisse croiser une femme, un homme, qui puisse être soit la mère, soit le père, qu'elle passe dans le métro, enfin qu'on soit assis en face de l'autre, et que, voilà, ou qu'on croise la personne dans la rue, au marché. Et puis juste passer à côté de la rencontre.
Je sais qu'on peut retrouver ma mère. Elle a laissé son nom quelque part. Un numéro, quelque chose. C'est forcément ici.
Tu n'as rien à craindre. Ils ne peuvent rien contre toi.
C'est vous qui travaillez à l'école de mon fils ?
Oui, c'est là que j'ai eu vos coordonnées. La secrétaire m'a dit que vous étiez kiné.
Vous avez dû vous froisser un muscle. Ça n'a pas l'air très grave. Vous avez eu des enfants ?
Non. Quand je me demandais si Noah était vraiment votre fils...
Vous pouvez vous tromper. C'est pas lui qui a été adopté, c'est moi. Laissez mon fils tranquille.
Cette affiche, c'est évidemment, c'est le portrait d'Elisa, qui a été abandonnée à la naissance, de manière anonyme. Disons que c'est un gros plan, qui coupe presque son visage, sur le front. Et il y a surtout son regard, pour moi. On voit que son regard va vers un horizon. Ce qu'on aimait beaucoup, c'est d'abord cette lumière qui arrive sur une partie de son visage, une autre partie qui est dans l'obscurité. Et en même temps, elle est tournée vers la lumière, vers cet horizon. Et on aimait beaucoup cette douceur dans son regard, en même temps qu'une forme de détermination, de force. Quand on capte une forme d'expression comme ça, c'est assez magique, hein. Elle est dans le film, parce que c'est une image qui est tirée du film, qui est même tirée de... C'est au tout début, dans le train. Elle est dans le train. Et voilà, pour moi, Cette image dit beaucoup de choses sur ce personnage et sur la trajectoire qu'elle va avoir après dans le film.
Écoutez, ça fait plus de 30 ans. J'ai le droit de savoir. Je lui ressemble, peut-être.
Voilà, c'est donc Ounie Lecomte que vous venez d'entendre, la réalisatrice de Je vous souhaite d'être follement aimée, qui sort ce 6 janvier, film avec Anne Benoît et Céline Salette, qui sont vraiment bonnes. Enfin, je veux dire, elles incarnent très très bien leur personnage. Alors, on est vraiment dans l'univers du drame avec un rythme très lent. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle ne prend pas la même voie que beaucoup de films qui nous emmèneraient vers le pathos, mais c'était pas facile à tenir, en tout cas, ce qu'elle a voulu faire Ounie Lecomte, et ça se sentait aussi dans l'interview. Je n'en ai pris que quelques petits bouts, parce que finalement, je me rendais compte que même elle hésitait un peu sur la manière de parler de son film. Mais vous pouvez quand même aller voir ce film qui sort un peu des sentiers battus. Malgré tout, je vous souhaite d'être follement aimé. Donc, c'est la sortie française de cette année.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et on passe donc au Tarantino. En plein Wyoming, une diligence rencontre le major Marquis, chasseur de primes, assis sur quelques cadavres pour lesquels il compte bien se faire payer à la ville de Red Rock. Mais la diligence transporte un second chasseur de primes, également féroce au premier, surnommé le bourreau, et qui emmène avec lui la meurtrière Daisy Domergue, afin qu'elle soit jugée et pendue. Pris dans le blizzard, les deux vagabonds se retrouvent contraints de s'abriter dans une mercerie, en compagnie de plusieurs autres voyageurs, égarés eux aussi dans la tempête. Très vite, le doute s'installe. Qui sont-ils? Est-ce un piège? C'est le début d'un huis clos sous haute tension pour démêler le vrai du faux.
Qu'est-ce qui peut pousser un homme à braver un blizzard et à tuer de sang-froid? Franchement, ça me dépasse. Il reste de la place pour une personne. Je suis pas trop emballé à l'idée de voiturer des gens.
Très confiant, votre gars, hein?
Pas vraiment.
Il n'est pas question que je passe plusieurs nuits sous le même toit qu'un kidam si je sais pas qui c'est.
Oh, la compagnie! Écoutez-moi bien, j'emmène cette femme se faire pendre. Il y a $10,000 de récompense. Ce fric est à moi, les petits gars.
Ça, c'est intéressant.
Il y a rien qui dit qu'il doit être facile, ce métier.
Il y a rien qui dit qu'il doit être si dur que ça.
Le huitième film de Quentin Tarantino, sobrement intitulé « Les huit salopards », a bien failli ne jamais voir le jour, puisque le scénario avait fuité sur le net, provoquant un arrêt immédiat du projet. Alors autant dire tout de suite, ce nouveau film passerait pour un chef-d'œuvre s'il était le premier film d'un cinéaste inconnu, mais en arrivant après Django Unchained, il fait pâle figure. Très théâtral, vaudevillesque, c'est un huis clos davantage dans la veine bavarde de Boulevard de la Mort que dans le registre tout feu tout flamme de Kill Bill. Alors c'est très volubile, un peu trop, d'autant que les dialogues manquent de panache, et malgré un rythme impeccablement soutenu, on est assez vite en manque de plans sublimes, comme Tarantino savait les faire. Dommage, Les Huit Salopards aurait pu être un western neigeux, tourné dans les grands espaces de l'Amérique du Nord, mais Tarantino aura préféré enfermer ses personnages, les faisant disserter sur de possibles trahisons comme dans un roman d'Agatha Christie. Agencé en plusieurs actes, l'intrigue met ainsi très longtemps à se nouer, on l'a vu d'ailleurs presque en temps réel, et 2h45 de dissertation autour d'une tasse de café, c'est un peu trop. Alors certes, le plaisir que Tarantino a à réunir ses acteurs fétiches et vieillissants est manifeste, et le scénario est un coup de maître, dans lequel suspense, tension et rythme montent crescendo, mais il manque définitivement une once d'originalité à l'ensemble. On aurait souhaité arriver un peu plus vite au dénouement, au cours duquel le jeu de piste se double d'un jeu de massacre aussi sanguinolent que jouissif, et je vous conseille de pas aller bouffer avant, vraiment, parce que c'est vraiment dégueulasse, car c'est dans cette dernière partie que l'on retrouve vraiment toute la verve de Tarantino. Alors, personnellement, j'ai eu un peu de mal quand même au cours de la première demi-heure avec le fait que Daisy Domergue, jouée par Jennifer Jason Leigh, se fasse rouer de coups par les autres personnages. C'était un peu trop, en fait. Ça fait partie du comique, mais c'était un peu trop. Au bout d'un moment, je trouvais que c'était excessif. Le fait qu'elle se fasse péter le nez, les dents et la mâchoire, c'était un peu too much.
Mais ils s'en jouent énormément, effectivement.
Oui, voilà.
T'aurais pensé la même chose si c'était un mec qui en prenait autant?
Bah non, évidemment pas. Mais bon, là, elle se fait quand même frapper par presque 7 mecs. C'est un peu beaucoup, quoi, quand même.
Oui, mais c'est pas une fille, c'est un mec. C'est un peu pareil.
C'est une saloparde. Voilà. Alors, on n'a pas forcément le même avis, même si toi, Manu, tu penses que ce n'est pas le meilleur des Tarantino.
Non, c'est celui que j'aime le moins même. Je trouve que c'est le film le plus décevant, avec Pulp Fiction. Je sais que beaucoup de gens adorent ce film, mais parce que je trouve que la grande force de Tarantino depuis Jackie Brown, c'est d'avoir donné vraiment de l'épaisseur à ses personnages. Et là, je trouve que ça en manque totalement. J'ai l'impression que Tarantino se caricature un peu, s'autocite constamment. Alors, c'est assez brillant, hein, c'est assez virtuose, mais il est un peu bien installé dans son fauteuil. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on attend de lui et c'est ce qu'il sait faire. Il le fait très bien, mais c'est un poil frustrant. Mmh. Et peut-être un peu trop long du coup aussi.
Alors c'est vrai que c'est long, ça peut faire peur, hein, 2h42, quelque chose comme ça. Et ce qui est par ailleurs intéressant, c'est que alors ça commence par un plan magnifique. Enfin, quand Marine dit qu'il n'y a pas forcément des plans virtuoses, si, moi je trouve qu'il y en a quand même pas mal.
Pas assez.
Et note, oui, pas assez. Sauf qu'il y a celui du début qui est vraiment, vraiment fabuleux, hein, parce qu'on part d'un gros plan, il y a un travelling arrière, et là on découvre l'étendue blanche. Donc, on a l'impression qu'on va se retrouver dans les grands espaces, et pas du tout. Hein. Il est bien question d'un huis clos, et c'est pas si évident à amener que ça. Et je trouve qu'il arrive à organiser l'espace de très bonne manière. Et puis après, il y a le jeu des acteurs, chacun a sa partition, hein, d'ailleurs. Enfin, je trouve que là aussi, c'est plutôt réussi, avec des vrais personnages, notamment celui de Samuel Lee Jackson.
Alors, tout le début, effectivement, dans la neige, il y a des plans superbes. Et là, Tarantino rend explicitement hommage à un film de John Carpenter, The Thing, d'ailleurs, qui ressort en ce moment sur les écrans.
Avec Kurt Russell.
Avec Kurt Russell qui joue dedans. Mmh. Et The Thing, c'est exactement fait de la même manière. Ça commence par des grands espaces avec des plans superbes en plan large. Et on va se retrouver, après, tout le long du film, à l'intérieur d'une base. Donc, de toute façon, il l'a dit à longueur d'interview que c'était son film de référence. C'est d'ailleurs la seule citation du film. C'est la seule citation, puisque tout le reste, c'est Tarantino qui se cite lui-même. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu. Quand un cinéaste commence à se citer constamment lui-même, je ne veux pas dire que c'est une preuve de sénilité, mais ça commence à me déranger un petit peu. En fait.
En faisant plus, hein, parce qu'il y a le côté Pulp Fiction où la tête éclate, et bien là, elle n'arrête pas d'éclater. C'est un jeu. Enfin, voilà. Il y a vraiment un jeu sur le sang. Alors, c'est un peu théâtralisé. C'est peut-être ça qui est... Il y a un peu de complaisance dans la violence.
Je pensais au côté, des fois, potage de Rodriguez. Plus qu'à du Tarantino à un moment, dans les excès comme ça, même dans les excès de gore, hein, moi j'aime ça, mais c'est pour pallier certaines insuffisances à mon avis qu'il est allé aussi loin dans le gore. C'est pour ça que le bis reste du bis, hein. Le bis, on pallie certaines insuffisances scénaristiques ou de direction d'acteur et on en rajoute dans le gore. Et je pense qu'il a fait un peu la même chose, Tarantino. Il n'avait peut-être pas besoin d'en faire, je veux dire, autant. Alors je comprends, hein, son amour de ce cinéma-là, hein, mais ça allait peut-être un peu trop loin.
Bon, après, moi je trouve que il y a beaucoup à faire avec les personnages et leur diversité entre Jennifer Jason Leigh, effectivement. J'ai perdu son nom, une espèce d'acteur qui fait le raciste futur shérif d'une ville, qui lui aussi a une partition assez surprenante. Il fait l'idiot, mais il le fait très très bien. Et ça, c'est dynamisé en fait par ce côté huis clos quand on se retrouve dans cette auberge. Voilà. Et il y a du suspense, évidemment, mais il y a aussi de la surprise. Enfin, il y a plusieurs ingrédients aussi très cinématographiques pour le coup.
Là, oui, de toute façon,
il y avait beaucoup d'attention d'ailleurs dans cette salle.
Ça reste très agréable à regarder, hein, ouais. Et assez prenant. Ça reste un bon film. C'est décevant pour un Tarantino, mais par rapport au tout venant du cinéma américain, on est largement au-dessus du panier.
Ce sera la conclusion, puisque Marine n'a plus rien à ajouter sur ce Tarantino. Les 8 salopards, c'était un film très attendu, sans doute le plus attendu de ce début d'année. Et il sort le 6 janvier.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Et nous passons maintenant à une partie récréative de l'émission. Ce sont les top 3 de chacun des chroniqueurs de cette émission. Et on va commencer par parler du cinéma. Est-ce qu'il va bien? La fréquentation dans les cinémas français a baissé de 1,4% en 2015, hein, par rapport à 2014, avec 206 millions d'entrées. Ça, c'est selon le CNC. Et la France compte encore 5600 salles. Et le cinéma américain, sa part de marché s'est élevée à 54,5% contre 45,4% en 2014. Parce que en 2014, il y avait Superchondriaque et il y avait Lucie et des Nouvelles du Bon Dieu, hein, qui ont raflé à peu près tous les sièges de spectateurs.
Sale année.
Et oui. Et sinon, juste une dernière statistique, c'est les films qui ont eu la plus longue durée à l'affiche. Vous savez lequel c'est? En 2015.
En 2015,
il y a un film qui est resté 26 semaines à l'affiche, ce qui est plutôt rare et un bon score. C'est Vice Versa, le nouveau
J'aurais
Disney.
J'aurais pensé à Mad Max, mais...
Eh bien non. Eh non, ça fait partie des surprises. Mad Max est 22e au niveau des entrées, avec seulement, j'ai envie de dire, 2 350 000 entrées. Et c'est pareil pour Seul sur Mars, hein, qui a dû coûter encore deux fois plus cher, qui a un tout petit peu plus d'entrées. Et puis Hunger Games aussi, hein, qui se retrouve seulement 14e, sauf que lui, il est encore dans les salles. En tout cas, ça nous donne l'occasion de jouer au top 3. On va commencer avec un top 3. Alors, c'est comme une sorte de blind test. Hein. Là, vous allez entendre 3 films qui sont mélangés dans un seul.
Qu'est-ce qui t'arrive, toi, connard ?
I'm Jude. Ouais.
Je sais que certaines rencontres peuvent mal tourner, comme je sais que la frontière est très fine entre le jeu de la séduction et quelque chose, pourquoi pas, de dangereux.
Brian is a very, very sick man.
Tu sais, moi, ça m'intéresse pas de tirer des coups dans la vie. Mais j'ai aucune honte à dire que quand j'aime, je peux faire l'amour tous les jours, sans même penser que je le fais tous les jours, tellement j'aime, et tellement je fais ça comme je respire.
Together we can do it.
Alors l'exercice n'est pas facile, mais c'est le top 3 de Marine.
Oui, voilà, donc c'est 3 films en fait dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, et je trouve que c'est très dommage. Alors les 3 auxquels j'ai pensé, eh bien c'était À 3, on y va, un film français de Jérôme Bonnel, Hungry Hearts de Saverio Costanzo, et Love and Mercy de Bill Pollard. Alors, s'il y a un film français qui m'a fait aimer le cinéma français cette année, c'est bien À 3, on y va, l'histoire drôle, émouvante d'un triangle amoureux porté par des comédiens vraiment excellents, tellement plein de charme d'ailleurs qu'on a envie de tomber amoureux des 3 en même temps. Bref, c'est d'une justesse vraiment sans pareil, moi j'ai trouvé ça excellent. Et puis autre film sur un sujet pas facile, Hungry Hearts, un film à la fois italien par son réalisateur, et new-yorkais par son décor, est totalement inclassable dans son traitement, une histoire d'amour filmée comme un film d'horreur dans lequel une jeune femme s'enfonce dans la folie suite à une maternité et avec dans le rôle de son époux Adam Driver qui joue désormais les méchants dans Star Wars. Et pour finir, une histoire d'amour encore, Love and Mercy, le film sur l'histoire de Brian Wilson, le leader des Beach Boys, à la fois génie de la musique et schizophrène, et qui a été volontairement surmédicamenté par son manager pendant des années avant d'être sauvé, comme le titre l'indique, par l'amour. Un film que j'ai vu un petit peu tard, en fait, que je n'ai pas vu en salle, et que j'ai trouvé excellent, où chaque vraiment plan a du sens, et un film qui a filmé deux choses impossibles à filmer, à savoir l'inspiration et la folie, à l'aide, entre autres, d'un travail sur le son extrêmement pointu et bien pensé. Et je rajouterai quand même, je sais que c'est un top 3, mais je rajoute quand même It Follows, parce qu'il fallait choisir 3 films, mais It Follows, vraiment le meilleur film d'horreur, le seul, en fait, qu'on ait pu voir cette année et qui valait vraiment la peine.
Et, voilà. Et d'ailleurs, je crois que je me suis amusé à regarder, les entrées pour A3 on y va, c'était 107 000 entrées en France.
Ce qui est pas mal pour un film français.
Love and Mercy, 96 000 entrées à peu près. Et puis Hungry Hearts, c'était 30 000 entrées. Voilà,
descend. Ça n'a pas trop fait parler, ce film.
Mais je crois que le record va être battu avec un des films du top 3 de menu qu'on écoute.
Mon monde est à feu et à sang.
Yusuke, matte.
Tout le monde est devenu fou.
Quelle journée ! Quelle journée merveilleuse !
Attends. Comment tu t'appelles ?
Max.
Alors, pas facile de reconnaître.
Bon, pour Mad Max, c'est quand même très très facile. Hein. Mais le meilleur film que j'ai vu donc cette année, c'est un film donc japonais, Vers l'autre rive. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre incontestable de l'année, une histoire d'amour déchirante. Hein. C'est ce que j'appelle, c'est un pur film romantique, un vrai de vrai qui s'assume pleinement, mélancolique, lumineux, doublé d'une réflexion sur la vie, la mort. Je trouve que Kuji Kurosawa arrive en pleine possession de ses moyens et lit vraiment quelque chose d'absolument magnifique.
Donc ça, c'était les petits dialogues japonais qu'on entendait.
Évidemment. Alors, je pense qu'après, le film qui a dû faire très peu d'entrées en France, ça doit être The Duke of Burgundy.
C'est ça.
Qui est un film quand même très particulier, puisque c'est une expérience visuelle et sonore assez unique, où le réalisateur, Peter Strickland élève un peu le film érotique, SM et fétichiste au rang d'art noble et raffiné. Je trouve que c'est un film absolument sublime qui rend hommage à notamment un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jess Franco. Et c'est une expérience, c'est un film difficile, très arty, très difficile malgré tout. Ouais. Et puis enfin, évidemment, Mad Max, mais je vais peut-être pas revenir là-dessus. On a tout dit, tout entendu. Et...
Effectivement.
Et ce que j'ai quand même aimé, c'est que c'est un film qui va vers un point A, vers un point B et qui repart du point B pour revenir au point A. Et avec ça, on fait un grand film.
Ouais. Voilà, top 3, le dernier, c'est le mien.
La première fois qu'il m'a parlé, c'était dans un bal.
Je vais toucher 500 euros par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois ?
Un type riche vous téléphone.
Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise ?
C'est tout ce qu'on a toujours espéré.
J'en ai chié autant que toi. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière.
Je peux savoir ce qui se passe entre toi et Dupont ?
Il a une belle bite comme j'aime. Une bite de bande dessinée, tu vois.
Chant de Dieu, je peux pas imaginer.
La lutte est un sport dégradant.
Tout à coup, il s'arrête. Il me retourne d'un geste, il a une force et il me sodomise.
Et je n'apprécie pas de te voir en situation dégradante.
Ça met un petit coup d'air à Amrette. Bam bam.
Ah, ça termine bien avec Denis Lavant dans le film La 21 nuits avec Patty, qui est toujours en salle, donc vous pouvez aller le voir. Ça, c'était la fin 2015, film des frères Larieux, admirable dans son ton. Et puis il y avait La Loi du marché, qui est vraiment l'antithèse, hein, beaucoup moins fantaisiste au contraire, avec Vincent Ladon, film de Stéphane Brisé. Et puis il y avait quand même un film américain que j'ai voulu mettre en avant parce qu'il a complètement raté sa sortie
sublime,
en France,
en fait. Ouais. Sublime, ce film.
Foxcatcher de Bennett Miller avec Channing Tatum, Steve Carell et Mark Ruffalo. Si vous l'avez raté, avec 80 000 entrées en France, eh bien vous pouvez prendre le DVD ou la VOD.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Bon, a priori, on en a vraiment terminé avec 2015. La semaine prochaine, on retrouvera, eh bien, a priori... Ah non, un autre film de 2015 de Beast.
Voilà.
Et puis après, d'autres films de 2016.
Et peut-être, à la semaine prochaine.
Et peut-être des interviews de réalisateurs. Ce sera la surprise.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.